Vous écoutez RTL.
Urbex, une contraction pour exploration urbaine.
La curiosité est un vilain défaut.
Une manière de découvrir tout un pan de patrimoine, en général inaccessible.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
La pratique est en train de se développer considérablement en France.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ces explorations sont souvent illégales et le milieu est réputé très fermé.
Vous ne connaissez sans doute pas l'urbex, vous l'avez entendu, l'exploration urbaine, cette passion qui consiste à découvrir, visiter, prendre en photo des lieux inaccessibles, abandonnés, normalement, le plus souvent en tout cas, interdits au public. Bonsoir Tim Hanem.
Bonsoir.
Bienvenue. Vous êtes architecte de formation, l'un des pionniers de cette exploration urbaine. Vous avez créé un site internet en 2001 et vous racontez vos aventures dans un livre qui est publié chez Artaud. Alors dans ce livre, vous classez les explorations selon leur dangerosité de 1 à 5. Alors évidemment, vous nous connaissez, on a choisi une exploration à 5 sur 5, donc assez dangereuse pour commencer. C'est un collecteur d'eau qui est situé en région parisienne, près de Fresnes. Vous l'avez découvert en 94, vous étiez tout gamin.
Oui.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 15 ans, 15-16 ans.
Voilà. Ah oui, donc c'est une passion de jeunesse. Ouais. Ça commence comment cette exploration ? Par une course-poursuite, c'est ça ?
En fait, on visitait une maison abandonnée juste au bord de l'autoroute du Soleil. Et j'étais avec un ami et on visitait la maison. Et au loin, on voit un monsieur arriver qui avait l'air un petit peu hargneux et qui marchait assez vite vers nous, comme si c'était un peu le propriétaire de la maison ou un squatteur, on ne sait pas trop. Du coup, on s'est sauvé par derrière. En fait, on a escaladé une petite barrière. On a couru dans les broussailles, on s'est retrouvé bloqué par l'autoroute qui était juste en face de nous. Et sous nos pieds, on a découvert une plaque d'égout qui était un peu entrouverte. Donc on n'a pas hésité une seconde, on a sauvé la plaque, on a descendu une petite échelle.
Et là, qu'est-ce que vous découvrez ?
On a découvert un énorme conduit qui descendait vraiment très profond, donc un peu comme dans Lost en fait à la fin de la première saison. Et donc on est resté comme ça bouche bée. J'ai passé la tête dehors pour voir si le type était parti. Il était parti, il nous a pas vu très bien. Et en fait on a découvert un immense conduit avec plusieurs paliers, des grillages, des échelles qui descendaient.
Et c'est un site dangereux.
C'est un site très dangereux parce que déjà pour accéder tout au fond, faut passer par plusieurs paliers, descendre plusieurs échelles métalliques qui sont des fois un peu humides puisque l'eau remonte comme c'est un collecteur d'orage.
Et c'est quoi un
collecteur d'orage en fait.
Alors ça veut dire quoi?
Ça veut dire que par exemple quand il y a des grosses trombes d'eau comme ça, il y a la Bièvre à côté qui peut déborder. Et du coup le collecteur est là pour prendre les eaux et les évacuer vers les égouts et pas que ça déborde. Enfin c'est un peu anti-cru quoi.
Donc si on imagine, vous vous retrouvez dans une espèce de mini tunnel qui pourrait se remplir d'eau.
Qui pourrait se remplir d'eau
une minute à l'autre. Quoi.
Et ce qui est assez stressant c'est qu'en fait dès qu'on est en bas, on entend un bruit de torrent comme s'il y avait de l'eau qui allait arriver très vite sur nous. Parce qu'au loin, il y a une espèce de petite cascade qui se déverse dans un énorme collecteur. Et ce bruit-là, en fait, ça fait un bruit de torrent qui fait qu'on marche, on marche, on marche, et le bruit se rapproche. Et à chaque fois, on a l'impression que l'eau va monter et qu'on va finir noyé. Donc c'est un peu l'adrénaline.
Collecteur d'eau, il a une histoire particulière, Tim ?
Pas tant que ça, parce que c'est très dur de retrouver les histoires des ouvrages techniques.
C'est comme l'histoire de tannerie, c'est ça ? Si on remonte très loin dans le temps, il y avait des tanneries au-dessus de la Bièvre.
Voilà, c'est la Bièvre qui passait par Paris. Ça a été couvert ensuite et le collecteur a dû être créé dans les années 60-70 pour récolter toutes ces eaux en cas de crue ou de fortes précipitations. Donc on ne sait pas trop de quand il date, mais c'est très mystérieux et c'est très très dangereux d'y descendre parce qu'il y a des grandes échelles qui font 2-3 étages à chaque fois. Il y a une série de 4. Donc clairement, si on descend à l'échelle et qu'on glisse, on tombe sur des paliers, on peut se faire très mal au dos et comme c'est très profond, il n'y a pas de réseau. Donc,
on est seul au monde.
Donc vous aimez bien vous mettre un peu en danger. Tim Hanem, on l'a compris dans votre livre Urbex, 50 lieux secrets et abandonnés en France. Vous ne donnez jamais l'emplacement exact des sites. Pourquoi ?
Alors ça, c'est une pratique qui est courante dans l'exploration urbaine. On ne dit pas où sont les lieux en fait, pour les protéger, pour les préserver. Parce que déjà, ces lieux, c'est pas à nous, on n'est pas chez nous déjà, c'est un truc vraiment qu'il faut se mettre à l'esprit toujours. Ça pourrait être dangereux que des gens y aillent et se blessent, tout simplement, en tombant, en passant à travers un plancher, ou finissent noyés dans le collecteur du livre. Et c'est aussi une manière de les préserver, de faire en sorte que les gens qui passeront derrière nous, qui auront trouvé l'endroit en faisant des propres recherches sur Internet, trouveront l'endroit dans le même état que moi, et pourront aussi profiter de la visite aussi bien que moi, en fait.
C'est un monde d'initiés. Le monde de l'exploration urbaine.
Ça peut se faire complètement en amateur si on aime juste visiter des petites maisons abandonnées en pleine campagne où il n'y a personne. Mais c'est vrai qu'après, pour rentrer dans des spots qui sont un peu plus gardés, où il y a du grillage, du barbelé, ce genre de choses, c'est pas mal d'être un petit peu initié.
Lorsque l'on est explorateur urbain, nous nous lançons dans une aventure jonchée de mystères et d'imprévus.
La curiosité est un vilain défaut.
Chaque lieu possède ses secrets qui se dévoilent ou disparaissent.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
selon les lois du temps. Et dans tous les cas, le lieu évolue.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Il n'a donc jamais été absurde de retourner plusieurs fois dans la même maison abandonnée. Cela est toujours une occasion de la découvrir avec des couleurs et des aspects différents.
L'exploration.
Il détache bien les syllabes, le monsieur.
Mais peut-être qu'il est enfermé dans un endroit.
Ah, c'est pour ça.
Qu'est-ce que il vous en savez, Thomas Hugues ? Un peu d'empathie. C'est l'exploration urbaine, l'urbex pour les initiés. C'est cette passion qui pousse à escalader un mur, emprunter un souterrain, basculer soudain dans un monde oublié et secret en plein cœur de nos villes. C'est le récit absolument passionnant que nous fait notre invité Tim Hanem. Vous nous servez de guide dans ce monde abandonné, ce monde où on a quand même assez peu de chance de se rendre, nous, des usines, des hôpitaux. Et par exemple aussi une ancienne maternité, d'ailleurs vous la surnommez l'hôpital des Trois Oursons. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce lieu ?
Cet hôpital, c'est le premier lieu médical où il restait encore vraiment plein de choses sur place que j'ai visité.
Et comme si tout le monde, les bébés, les sages-femmes, tout le monde avait quitté le lieu comme ça en un instant.
La première impression, c'est qu'on avait l'impression que les gens étaient partis du jour au lendemain et c'est ce qui s'est passé en fait réellement. Donc ça fait très peur.
Mais pourquoi ?
Les délocalisations, ouais. Des problèmes divers et variés. C'est ce qu'on entend à la télé, en fait, hein, des fois, quand les maternités ferment, c'est ça, en fait. Et du jour au lendemain, ça ferme, donc on a pu explorer ça. Et c'était assez impressionnant parce qu'il y avait encore vraiment tout matériel sur place, des photos d'enfants, des photos médicales, des dossiers aussi confidentiels dans les souterrains, assez bizarres. Donc ouais, c'était vraiment une exploration assez étrange, quoi, comparé à une usine.
Ouais, vous publiez d'ailleurs des photos de cette maternité abandonnée dans votre livre Urbex, qui est publié chez Artaud. Il y a forcément, vous nous décriviez tout à l'heure, ce collecteur d'eau avec le risque que il y a le bruit de l'eau d'une espèce de torrent. Vous demandez si vous n'allez pas vous retrouver noyé. Il y a une décharge d'adrénaline. Vous cherchez ça ?
Ouais.
Dans chaque aventure.
Ouais, très souvent, ouais, parce que j'aime beaucoup ça. On se sent vraiment vivant dans ces endroits parce qu'on fait très attention à ce qu'on voit. On regarde devant soi, on regarde souvent derrière soi toutes les 10 secondes pour voir si on n'est pas suivi par un gardien ou la police ou quoi que ce soit. On écoute aussi beaucoup plus ce qui se passe autour de nous. Par exemple, les portes qui claquent, les fenêtres, ce genre de choses.
C'est un peu comme regarder un film à suspense, voilà. Ou un film d'horreur presque.
C'est comme on regarde un Hitchcock, on se demande vraiment ce qui va se passer. Et en fait, on se sent vraiment vivant. Et dès qu'il y a un bruit, une porte qui claque, quelque chose comme ça, on a une espèce de haut-le-cœur comme ça. Et en fait, moi, j'aime bien, je me sens vraiment vivant dans ces endroits-là. J'aime bien.
Alors, c'est pas légal. Ces lieux, ils sont interdits au public. Ça vous est déjà arrivé de vous faire arrêter, de finir au poste ?
J'ai fini une seule fois au poste. Donc, et j'ai passé un quart d'heure sur place. Et en fait, les policiers m'ont demandé d'effacer les photos que je venais de faire.
C'était où ? Qu'est-ce que vous aviez fait ?
C'est dans le château de Marguerite, qui est dans le livre. Et en fait, c'est un lieu assez tagué et ruiné. Donc, j'étais très étonné que la police vienne me chercher là-bas. Parce que clairement, il n'y avait pas de problème. Enfin, c'était un peu bizarre. Et ils m'ont demandé de les effacer, et donc j'ai obtempéré, je les ai effacés. Une fois chez moi, je les ai récupérés, et elles sont dans le livre. Donc j'espère que je pourrai leur envoyer un livre en leur disant, voilà, ça serait rigolo. Mais donc ouais, j'ai fini une seule fois au poste en une quinzaine d'années d'exploration, ce qui est quand même...
Vous êtes fort.
C'est fort, mais après, moi, dès que je tombe sur un gardien ou un vigile, j'explique directement ce que je fais, je dis bonjour, je donne les papiers, je fais des photos, je casse rien, regardez, j'ai du matériel. Et puis ça se finit, ça se passe très bien. Et comme l'urbex commence à être médiatisé, les gens disent ah, vous faites de l'urbex, ok, allez dehors. Et ça dure 5 minutes. Et vaut mieux que ça dure, c'est bien que ça dure 5 minutes plutôt qu'une demi-heure où ils demandent de fouiller toutes nos affaires pour voir si on n'a pas des objets, la drogue, ce genre de choses.
Urbex, donc pour exploration urbaine, pour ceux qui nous rejoignent sur RTL. Vous êtes aussi tombé, vous racontez dans votre livre, tombé sur des policiers une fois dans un ancien fort militaire.
Voilà,
c'est un fort qui est en région parisienne.
Oui. Et il est utilisé par la police nationale pour des entraînements soit en airsoft, donc en billets plastiques, soit en balles réelles de temps en temps.
Mais là aussi, vous prenez quand même des risques limites, quoi, parce que...
On est passé une fois un matin et on a vu tout au bout une voiture de flic qui s'entraînait à balles réelles. Donc là, on est parti, on est rentré chez nous. Ça fait partie aussi de l'urbex, on arrive, ça marche pas, on rentre chez soi. C'est la règle du jeu, des fois on peut pas rentrer, c'est comme ça. Et une autre fois, je suis revenu et par contre, ils étaient pas là, donc j'ai commencé à faire mes photos. Et ils sont arrivés après moi. Et j'ai cru que c'était des joueurs d'airsoft, donc je suis allé les voir. J'ai fait bonjour, je fais que des photos, vous me tirez pas dessus, y a pas de problème. Et ils m'ont dit ah, vous êtes un civil, bon allez dehors, on vous raccompagne dehors. Et ils ont été très gentils, ils m'ont mis dehors sans me contrôler. Et comme ça s'était bien placé et que j'avais fait une dizaine de photos seulement pour le livre, je me suis dit allez, je vais faire le tour du fort et je vais faire d'autres photos quand même en essayant de jouer un peu à cache-cache et de pas me faire voir. Ce qui était assez marrant à faire.
Tim Hanem, l'un de vos sites préférés, vous le racontez dans votre livre Urbex, c'est celui que vous appelez le domaine des trois colonnes. Où est-il situé ?
Il est à 1h30 au sud de Paris.
C'est quoi ? C'est un château, un ancien château ?
C'est un ancien manoir d'inspiration normande qui a été construit au début du siècle et qui est vraiment magnifique. Donc c'est pour ça que moi j'y retourne souvent, on trouve souvent des choses.
Alors qu'est-ce qu'on trouve ? Quelle est l'histoire de ce château ?
Alors c'est un château qui date de, qui a été construit début 1900 par un riche industriel qui est devenu sénateur, du coup il l'a quitté. Et en fait la maison a été rachetée par une famille juive qui a été virée quand les Allemands sont arrivés en fait, en 1944. Et la moitié de la famille juive a fini déportée, les Allemands sont restés sur place, ils ont pillé le manoir, comme on peut le savoir, pour toutes les propriétés en France, pendant l'occupation ça a été pillé. Les Américains sont arrivés derrière la libération, ils l'ont aussi pillé, la résistance est arrivée derrière, ils l'ont ensuite repillé. Et ensuite on a rendu le château aux propriétaires juifs, la famille juive, et ils ont vu l'état du manoir, ils ont dit on se casse en Suisse quoi.
Et vous avez découvert quoi, Tim, lors de votre exploration urbaine de ce château ? Il restait quoi ?
Il reste plus grand-chose, mais en faisant des recherches sur Internet, et c'est aussi ça un aspect de l'urbex, c'est passé beaucoup de temps sur Internet à chercher sur des vieux sites puis mis à jour depuis 10-15 ans, des informations sur des sites de généalogie, de cartes postales anciennes, pour essayer de trouver des pièces de puzzle et essayer de reconstituer l'histoire du lieu. Parce que là, concrètement, sur place, il n'y a plus grand-chose pour se faire une idée. Mais sur Internet, on trouve beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est aussi l'intérêt de l'urbex, c'est de passer du temps sur Internet à chercher des spots. Parce qu'une fois qu'on les trouve, après une heure et demie de recherche, on est très content.
Vous avez, on l'a dit, une formation d'architecte. Est-ce que vous imaginez de temps en temps ce qu'un architecte pourrait faire de ces sites ? Parce que ce domaine des Trois Colonnes, cet ancien château, ça, c'est un site magnifique en soi.
Oui, ça pourrait être un site magnifique, mais après, comme pour tout, c'est une question d'argent. Parce que des fois, ça est souvent situé dans des petites maisons, dans des petites mairies à la campagne. Et les mairies n'ont pas du tout l'argent pour mettre en place dans un projet de réhabilitation, surtout s'il n'y a pas de projet derrière. Donc c'est toujours une question d'argent. Et par contre, pour des bâtiments comme des usines ou des hôpitaux, quand on visite ça, on se dit clairement on pourrait mettre des SDF dedans, quoi.
Tim Anembou, il y a un autre site qui est magnifique. C'est un manoir, vous l'appelez le manoir à la lanterne. Moi, ce qui m'a surpris en voyant les photos, c'est qu'il y a un piano. C'est pas un petit piano droit, ouais.
C'est un grand piano avec eux qui est en bas sous l'escalier qui monte.
Qui est très délabré, évidemment, les notes sont fausses. Il y a aussi un billard, un grand billard, ça vaut de l'argent. Ouais. Pourquoi c'est là ?
Alors en fait, y a des spots comme ça qui conservent leur mystère parce qu'on peut jamais vraiment savoir pourquoi une maison abandonnée a été privée, pourquoi une maison a été abandonnée par des gens quand c'est une maison privée en fait. C'est comme si vous, votre maison, tout d'un coup, vous partez, vous la quittez, il n'y aura aucune trace sur Internet de pourquoi cette maison est partie, parce que c'est pas du tout connu. Donc en fait, des fois, il y a des spots qui sont complètement mystérieux, et ce manoir, je n'ai aucune info dessus. Je sais juste à peu près quand il a été construit, et je ne sais pas du tout pourquoi il a été abandonné, et voilà, c'est le mystère.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
L'urbex, l'exploration urbaine, c'est une aventure, une passion qui pousse des hommes et des femmes à se faufiler dans des sites secrets, abandonnés, interdits. Tim Anem fait partie des pionniers de l'urbex, il est notre invité dans la curiosité. Vous racontez ces lieux délaissés dans un livre qui est publié chez Artaud. Dans l'Essonne, par exemple, vous avez découvert un ancien orphelinat. Pourquoi vous touche-t-il ce lieu particulièrement ?
Parce qu'en fait, quand je l'ai visité, je savais juste que c'était un orphelinat et rien de plus. Et comme je fais de temps en temps, après mes explorations, je publie des photos. Et là, en fait, j'ai fait une espèce de petite BD sur mon blog qui raconte où je me présente en train de visiter l'endroit et ça fait un peu peur. Et suite à ça, en fait, des gens ont commencé à commenter cet article, cette mini BD, en disant « Mais moi, j'étais dans cet orphelinat dans les années 80. » Et puis d'autres ont commencé encore à commenter, etc. etc.
Donc ils se sont retrouvés grâce à vous, en fait.
Voilà, et moi, j'ai suivi cette discussion au fil des semaines et j'ai voyé tous se retrouver. Ils ont fait un site à eux. Et puis donc, au bout d'un moment, il y en a un qui m'a écrit et qui m'a dit voilà, j'ai une trentaine d'années, moi j'étais gamin dans cet orphelinat dans les années 80, si ça te dit, un jour on y va et puis je te raconte tout. Donc là je me suis dit, c'est super, c'est bouteille à la mer, coup de chance.
Donc vous retournez sur les lieux ?
Je retourne sur les lieux avec ce monsieur et deux autres pensionnaires aussi de l'orphelinat et il me raconte toute l'histoire. Et donc moi, comme je suis un peu curieux au niveau des architectures, à quoi pouvait servir cette pièce, ceci, cela, etc., il me raconte toute l'histoire de l'endroit, en fait. Voilà, comment ça se passait avec les orphelins sur place, etc. Et surtout, comment ça s'est terminé de façon assez
tragique. Et ça s'est terminé comment ?
En fait, il y a eu un conflit du personnel. Les moniteurs n'étaient pas d'accord avec la direction de la CGT qui gérait cet endroit-là. Et un soir de janvier, à 3h du mat, il y a le service d'ordre de la CGT qui est venu avec des barres de fer. Et ils ont mis tout le monde dehors, les moniteurs, le personnel et les enfants aussi, qui avaient entre 8 et 13 ans, dehors, tout le monde dehors. Alors, jetant un sac poubelle à 3h du mat, prends tes affaires dehors. Donc les gamins qui avaient réussi à refonder une famille dans cet endroit-là, ils ont été tout à éclater. Donc certains sont partis à la DAS, d'autres sont partis au commissariat, on ne les croyait pas, d'autres sont partis à la campagne, et ça a été complètement fermé du jour au lendemain.
Et puis avec votre exploration urbaine, vous avez permis de rassembler toutes ces personnes, voilà, de réécrire aussi, enfin d'écrire l'histoire de ce lieu. C'est à ça que ça sert, l'exploration urbaine aussi. Vous, ouais, travaillez la mémoire, vous la conservez.
Voilà, c'est ça. En fait, tout le monde ne le fait pas. Certains privilégient le côté esthétique. Ils y vont, ils font des belles photos et c'est très bien. Et moi et d'autres, moi, j'aime bien aussi chercher l'histoire des endroits, savoir pourquoi ils ont été abandonnés, retrouver des pièces de puzzle et vraiment reconstituer l'histoire pour un peu désépaissir le mystère, la brume qui entoure un lieu. Et donc, des fois, j'ai des coups de chance, comme une bouteille à la mer, d'une personne qui me contacte, qui me dit « Mais si tu veux, moi, j'ai plein de photos d'époque de cet endroit, je te raconte tout, viens, je te montre. » Et moi, je suis gentil, j'y vais, puis il me raconte tout, et c'est super. Et du coup, il y a une part de mystère qui s'envole un petit peu, mais du coup, on a un bel échange humain, et ça permet de conserver une trace de ces endroits sur Internet.
Et cette trace, vous la proposez aussi en version papier, dans ce livre Urbex, qui est publié chez Artaud. Par exemple, l'histoire du château Chocolat. Déjà, c'est un joli nom. Pourquoi vous l'appelez ainsi ?
En fait, il a été construit par un industriel du début du XXe siècle qui était très connu pour vendre du chocolat. Donc c'est tout simple en fait. À chaque fois, on donne des noms fictifs aux lieux justement pour ne pas que les gens les trouvent et pour les préserver, comme j'expliquais tout à l'heure. Mmh. Et donc cet industriel a fait construire ce château, et comme il avait été très fortuné, il a fait, c'est un château néo-gothique avec plein de décorations dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment c'est une profusion de détails. Mais ensuite, il s'en est désintéressé et c'est devenu ensuite une maison de repos, puis un couvent, puis un collège de jeunes filles. Et il y a eu un incendie dans les années 70, et depuis, le truc était laissé à l'abandon complètement.
Il est facile d'accès, tiens, par exemple, ce château chocolat, parce que c'est l'un des aspects de l'exploration urbaine, c'est réussir à entrer dans des lieux qui sont fermés au public.
Alors l'accès, en fait, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont voir un grillage et qui vont s'arrêter là. Et il y a d'autres gens qui voient un grillage et qui se disent « Waouh, j'ai envie de l'escalader et d'aller voir ce qu'il y a dans le château ». On peut très bien se contenter de voir de l'extérieur, puisque c'est dans un parc. Donc on peut le voir d'extérieur, mais on peut aussi entrer dedans, mais c'est un château qui est très 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 dangereux. Si on tape sur les murs, le plafond s'écroule. Donc je conseille vraiment à personne de le visiter. Moi, je conseille de le voir de l'extérieur, c'est déjà très joli. Enfin, c'est joli en tant que ruine, mais ne pas trop s'aventurer dedans, parce que vraiment, c'est dangereux.
Dans votre livre, vous racontez qu'en arrivant dans ce château en ruine, vous aviez ce château chocolat, une impression de déjà-vu. Pourquoi ?
Ouais. Bah en fait, je savais pas trop pourquoi au début, et je l'ai visité. Après, je suis retourné 2-3 fois avec des amis, et après, j'ai eu une espèce de flash. En fait, je l'avais déjà visité en 94 quand j'étais au collège, pas très, très loin, voilà, tout petit, avec des amis collégiens de l'époque. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, je l'avais déjà visité avant. Et du coup, je me suis dit, c'est fou que j'ai pu oublier ça. Et c'est ça qui me motive aussi à faire des photos et de la mettre sur mes sites pour préserver les endroits et pour qu'une fois qu'ils soient rasés, détruits ou fermés ou murés, ils vivent quand même une petite vie sur Internet. Et des fois, des gens m'écrivent en me disant « Mais oui, j'ai visité cet endroit dans les années 80, c'est super de revoir des photos, ça me rappelle des souvenirs quand j'étais enfant. » Et ça, je trouve humainement, c'est très... J'aime bien, c'est touchant. On se dit qu'on sert à quelque chose et c'est pas mal.
Alors, il y a plein d'histoires dans votre livre. L'histoire d'un grand manoir qui est dans le Loiret, qui a appartenu à une ancienne star de la télévision, qui animait des jeux, je n'en dirai pas plus. Et puis, dans les Vosges aussi, un site magnifique. C'est peut-être l'un des plus beaux que vous ayez exploré, Timanem. C'est un manoir, vous l'appelez le Château Lumière. Et alors là, c'est quoi ? C'est des trésors de déco, de décoration que vous avez trouvés ?
C'est un manoir qui est vraiment laissé à l'abandon depuis très longtemps et qui est resté assez secret très longtemps également. C'est pour ça qu'il était vraiment en très bon état, avec un magnifique tapis rouge dans le hall, un miroir qui était encore intact quand moi je l'ai visité avec des amis. Et il y a encore des salles de bain sur place avec des vitraux, il y a des papiers peints, chaque pièce a un papier peint différent, il y a des radiateurs en fonte qui sont magnifiques, il y a un coffre-fort qui est fermé.
Et ce site, après votre exploration, a été pillé ?
Voilà, en fait, il y a d'autres gens qui ne sont pas aussi scrupuleux pour protéger les lieux, en fait, et qui partagent les adresses, donc soit sur Internet, soit à leurs amis, sans leur dire vraiment comment ça se passe. Du coup, après, certains lieux sont investis, sont soit tagués, soit il y a du vol, soit il y a de la dégradation, il peut y avoir plein de choses.
En tout cas, vous ne donnez pas les adresses, Timanem. Voilà.
Merci beaucoup. Votre livre Urbex, 50 sites secrets et abandonnés en France, est publié aux éditions Artaud.
Vous écoutez RTL.